Rudolf Steiner, mythe et mystère égyptien. Quatrième conférence faite à Leipzig le 5 septembre 1908. Hier, nous avons terminé notre étude en parlant d'un événement extrêmement important de la vie intérieure, de la vie spirituelle de l'homme. Nous avons essayé de faire naître en notre âme l'impression que ressentait l'élève des écoles initiatiques au début du dernier tiers de l'époque atlantéenne. Nous avons évoqué la forme humaine idéale qui apparaissait devant l'âme du néophyte, pensée-image sur laquelle il se concentrait pendant sa méditation, cette forme venant emplir ses représentations, ses sentiments et sa volonté. C'est cette pensée-image qui devait de plus en plus devenir le modèle de l'être humain futur. Essayons de nous représenter approximativement cette pensée-image. Elle n'était pas vraiment semblable à l'homme d'aujourd'hui. Figurons-nous une sorte de forme née de la combinaison d'un homme et d'une femme, à l'exclusion de tout ce qui est inférieur. Imaginons une sorte de double figure, dont seule la partie supérieure du corps est nettement visible, et nous aurons à peu près l'image sensible suprasensible qui apparaissait à l'élève en méditation. Cette pensée-image exerçait une action si forte que tous ceux qui devaient être initiés modelaient vraiment leur corps extérieur à sa ressemblance. Le fait que le néophyte contemplait dans sa méditation une sorte de forme humaine, une forme qui lui faisait face intérieurement, est très important. Lorsqu'il avait été préparé et qu'il voyait cette forme vivante, lumineuse, surgir devant lui, il se disait « En regardant cette image, je m'absorbe dans l'état premier de l'évolution terrestre, alors que la Terre, la Lune et le Soleil n'étaient pas encore séparés. Autrefois, la Terre était composée d'un atome originel, mais, dans cet atome, le clairvoyant pouvait contempler l'image qui apparaît à présent à ses yeux. Ce prototype existait déjà à l'origine de la Terre, lorsqu'il n'y avait pas encore de formes animales, végétales ou minérales. La Terre n'était alors qu'un atome humain, fait des hommes appelés à nouveau à la vie. Certes, les premiers germes animaux s'étaient déjà formés pendant l'état lunaire de la Terre. Les animaux étaient déjà là. Mais nous savons aussi que, lorsqu'un système planétaire disparaît, il s'abîme dans un pralaya, où se dissolvent toutes les formes existantes. L'ancienne Lune était peuplée de formes animales, mais la Terre, à l'origine, n'avait pas pour autant des animaux et des plantes. Ils ne lui vinrent que plus tard. Les animaux n'apparurent progressivement qu'après la séparation du Soleil. À son origine, la Terre était seulement homme. C'est vers cette origine que remontait le regard du néophyte. Il voyait dans l'atome primordial l'image idéale de l'homme. Lorsqu'il contemplait cette image, son esprit s'ouvrait. Deux points. Je m'absorbe dans l'état originel de la Terre. Cette image, cette forme idéale de l'homme qui vit dans la Terre, exprime pour moi ceci. Deux points. La divinité agit d'éternité en éternité. Elle s'est moulée dans ses formes et elle a exhalé hors d'elle la forme humaine originelle. Puis il se disait. D'où sont venus les animaux, les plantes et les autres êtres? Le néophyte voyait en esprit comme la forme première de la divinité, et il voyait à côté d'elle les formes animales et les formes végétales qui naquirent par la suite. Toutes ces formes des règnes inférieurs lui apparaissaient comme nées de la forme humaine. Nous nous en ferons une image en pensant à la façon dont s'est formée la houille. Pensons aux grandes forêts vierges qui autrefois naissaient et vivaient et qui sont devenues maintenant du charbon. elles n'ont pas continué d'évoluer. D'un règne supérieur, elles sont passées à un règne inférieur. La plante, devenue pierre, s'est durcie. Le néophyte atlantéen voyait ainsi le monde environnant, tout entier, sortir de la forme humaine. Cette impression, qui surgissait devant l'âme de l'homme à des époques reculées, se maintint dans sa mémoire au cours des temps diluviens qui suivirent. Et les anciens initiateurs indiens évoquaient encore dans l'âme de leurs élèves cette image de l'homme archétypal émané du souffle du soi éternel. Lorsque le disciple indien avait la vision de cet archétype, il sentait que là était l'origine de toute vie, que le sang de cette image originelle était devenu les eaux de la terre, et ainsi de suite. Cette image s'élargissait jusqu'au fondement originel de l'univers. À ce moment, voici ce qu'on plaçait devant son âme. On lui disait « Cette image que tu as devant les yeux est double. Elle est d'abord la forme première elle-même, mais elle est aussi le germe le plus profond de ton être. Ce germe qui précisément s'est mis à briller en la contemplant. Dehors, le macrocosme, et dedans, sa quintessence que tu ressens, le microcosme. » Lorsque les Grecs, avec Alexandre, pénétrèrent en Inde, et qu'ils eurent connaissance des derniers échos de ces sentiments éprouvés par le néophyte des temps reculés, ils traduisirent cette impression en disant « Quand le disciple contemple l'homme répandu à travers le monde, il a devant lui Héraclès, l'Indien appelé Vak, les forces qui animent l'univers. Mais il nommait Brahman la quintessence de ces forces dans l'homme. » C'est ainsi que les Grecs reçurent un écho de ce qu'avait ressenti le disciple au temps de l'antique culture sacrée indienne. Ce fut le fruit d'une campagne des Grecs vers l'Inde, sous la conduite d'Alexandre le Grand. Ainsi, la doctrine sacrée de l'initiation indienne se développa-t-elle à partir de ce sentiment fondamental, reflet spirituel de l'état premier de la terre, uni aux forces du soleil et à ces sublimes entités vers lesquelles se tournèrent plus tard les désirs nostalgiques des hommes. Lorsque le néophyte était initié, il éprouvait un sentiment élevé de vie spirituelle, quand il était parvenu à faire renaître en lui ce qu'on appelait Brahman. C'était un événement immense qui se passait au sein de l'âme humaine. Elle se sentait soulevée dans des mondes sublimes. On ne pouvait acquérir l'initiation, la vision spirituelle réelle, qu'en s'élevant vers les mondes suprêmes. Le monde qui nous entoure, c'est le monde physique. Autour de lui et en lui, se meut le monde astral. Au-dessus se trouve le Devaran, le monde des dieux, et c'est dans les régions suprêmes du Devaran que le néophyte devait être ravi lorsqu'il devait contempler dans le macrocosme Brahman, le soi originel. Il se trouvait alors dans les régions les plus élevées du Devaran, dans le monde des dieux d'où provient ce que l'homme a de plus noble en lui. C'est un royaume de parfaite harmonie où le disciple était élevé, un royaume qui offrait encore beaucoup plus de choses à la connaissance, car il ne contenait pas seulement ce que nous venons de décrire. Avant de poursuivre, voyons qui étaient les maîtres. Vous avez tous entendu parler des saints rishis, les fondateurs de l'antique culture indienne qui avaient eu Manu lui-même pour maître. Qui étaient donc ces sept grands maîtres de l'Inde antique? Essayons de nous représenter un peu leur nature et, pour cela, regardons encore une fois dans le vaste monde. Il ne faut pas oublier que ce que nous percevons avec nos sens physiques, nos yeux, etc., c'est une conséquence de l'esprit. Si nous pensons sous sa forme spirituelle le monde qui nous entoure, nous pouvons le comparer à un brouillard éthérique d'où tout est né. Ce brouillard s'est peu à peu densifié. Il est parvenu à l'état de matière, et en son sein se sont condensés les différents corps célestes. Deux points, le soleil, la lune et la terre, qui se séparèrent. Mais pour quelle raison les autres planètes se sont-elles séparées? Car ces grands événements accompagnèrent les autres séparations. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure se sont également isolés. Pourquoi cela? C'est que les choses se passent dans le grand univers comme elles se passent dans notre vie journalière. Il n'y a pas qu'au lycée des élèves qui redoublent une classe. Il y a, dans le grand cosmos, des êtres qui sont retardataires et qui ne peuvent pas suivre l'évolution. C'est ce qu'il faut comprendre bien clairement. Il se trouva un groupe de hautes entités qui ne purent continuer à évoluer au même rythme que la Terre, qui en séparèrent les substances les plus subtiles, pour en former le Soleil qui devint leur séjour. C'étaient les êtres les plus élevés qui fussent liés à notre développement, mais ils avaient déjà accompli une évolution. Il y avait donc des êtres qui allaient devenir les esprits du Soleil, et d'autres qui étaient retardataires, inférieurs aux esprits du Soleil, mais cependant supérieurs aux hommes. Ils ne pouvaient pas suivre l'évolution des esprits du Soleil parce qu'ils n'étaient pas aussi mûrs que ces derniers. Ils ne purent accompagner le Soleil car celui-ci les aurait consumés. Mais ils étaient trop nobles pour la Terre. C'est pourquoi ils éloignèrent de celle-ci certaines substances dont la finesse était intermédiaire entre le Soleil et la Terre et qui correspondaient à leur nature, pour en faire leur résidence, entre le Soleil et la Terre. C'est ainsi que se formèrent Vénus et Mercure. Nous avons donc là deux groupes d'êtres qui n'étaient pas aussi élevés que les esprits du Soleil, mais qui étaient plus avancés que l'homme. Ils devinrent les esprits de Vénus, les esprits de Mercure. C'est à eux qu'est due la naissance de ces deux planètes. Auparavant, s'étaient formés également Mars, Jupiter et Saturne, mais pour d'autres raisons, ils devinrent les séjours de certaines entités. Des esprits sont donc cause de la formation des planètes. Il ne faudrait pas croire que ces êtres qui habitent les différents corps du système solaire n'ont pas de rapport avec les habitants de la Terre. Comprenons-le bien, les frontières physiques ne sont pas les limites dernières. Il est absolument possible aux entités des autres corps célestes d'exercer sur la Terre une action magique par-delà les frontières où s'arrête la matière. C'est ainsi que les influences des esprits du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, de Vénus, de Mercure, etc., pénètrent la Terre. Ces deux derniers groupes d'esprits sont plus proches d'elle. Lors de l'éloignement du Soleil, ils ont aidé l'homme à préparer la Terre à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ouvrons ici une parenthèse. Des malentendus se sont établis au sujet de la dénomination des planètes. En occultisme, on appelle Vénus la planète que les astronomes nomment Mercure, et inversement, celle qui est pour eux Vénus est pour les occultistes Mercure. Les astronomes officiels ne savent pas qu'il y a là un mystère profond que l'on n'a pas voulu dévoiler en découvrant le véritable nom occulte des choses. Ceci a été fait pour masquer certaines réalités. Tous les esprits des autres planètes exercent donc une action sur la Terre. De toutes les planètes rayonnent des influences vers l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas les recevoir directement. Il fallait qu'elles fussent reçues par des intermédiaires. Et c'est pourquoi le grand Manu initia les sept rishis, de telle sorte que chacun des rishis pût comprendre les influences de l'une des planètes. Et comme on comptait sept planètes, il y eut sept rishis, dont l'ensemble représentait une loge de sept membres, qui transmit à ses élèves les secrets de notre système solaire. C'est pourquoi nous trouvons dans plusieurs anciens écrits occultes des indications à ce sujet. On lit par exemple, deux points, il y a des mystères qu'il faut chercher au-delà des sept. C'est le saint Manu lui-même qui les garda pendant le temps qui précéda la séparation des planètes. Les secrets des sept rishis concernaient les forces contenues dans les planètes. Le cœur des sept rishis, en parfaite harmonie avec Manu, dispensait aux disciples son merveilleux enseignement. Cette doctrine des origines enseignait ce que nous appelons aujourd'hui l'évolution de l'humanité à travers les états planétaires nommés, deux points, Saturne, Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Vénus, Vulcain. Les mystères de l'évolution avaient été déposés dans les sept membres de la loge, et chacun d'eux représentait un des degrés du développement de l'humanité. C'est ce que voyait, ce qu'entendait même, le néophyte lorsqu'il s'élevait dans le monde du Devaran, car ce monde est celui des sons. Il y entendait l'harmonie des sphères, l'harmonie des sept planètes. Dans le monde astral, il voyait l'image. Dans le monde dévaranique, il entendait le son. Et dans le monde suprême, le plus élevé de tous, il faisait l'expérience du verbe. Lorsque le néophyte indien s'élevait au Devaran supérieur, il percevait par la musique et le verbe des sphères comment l'esprit originel, Brahma, se divise à travers l'évolution dans la chaîne des sept planètes, et il entendait cela dans le son primordial, Vak. C'est ainsi qu'on appelait le son originel de la création. C'est ainsi qu'il parvenait à l'oreille du néophyte. Il y entendait toute l'évolution du monde. Le verbe, divisé en sept, le verbe originel de la création, agissait en l'âme du néophyte, et il le décrivait aux non-initiés, à peu près dans les termes où nous décririons aujourd'hui l'évolution de notre monde. Ce qu'il percevait, je l'ai esquissé à grands traits dans ma théosophie. Cette description, nous la retrouvons dans l'antique religion sacrée des Indiens, dans ce qu'on appelait Veda, ou le Verbe. C'est là le sens véritable des Védas, et ce qui a été rédigé plus tard n'est qu'un souvenir de l'antique doctrine sacrée du Verbe. Le Verbe lui-même s'est perpétué de bouche en bouche, car l'écriture déforme l'enseignement traditionnel primordial. Ce n'est que dans les Védas qu'on peut encore ressentir quelque chose de ce qui fut l'âme de la civilisation indienne. Lorsque le néophyte repassait tout cela dans sa mémoire, il pouvait se dire « Le Brahman, le verbe originel que je sens vivre dans mon âme, existait déjà sur l'ancien Saturne. Sur Saturne résonnait déjà le premier souffle du verbe védique. » L'évolution se poursuit, du soleil à la lune, de la lune à la terre. Le verbe se condense de plus en plus, prend des formes toujours plus dures, et l'image de l'homme dans le germe primordial de la terre est déjà une forme plus dense de l'état du verbe originel sur Saturne. Que s'est-il donc passé? Le verbe divin, l'homme primordial, s'était revêtu d'enveloppes toujours nouvelles, et il est très important de voir quelles enveloppes il a acquis au cours de l'évolution de la Terre. Le néophyte savait que rien ne se répète absolument dans l'univers, et que chaque planète a sa mission. Sur l'ancien Soleil s'était formée la vie. Sur l'ancienne Lune, la sagesse avait pénétré le fond de toute chose. Le devoir, la mission de la Terre, c'est de développer l'amour, qui n'existait pas encore sur l'ancienne Lune. La forme originelle de l'homme, qui avait existé sur la planète précédente, sous une forme plus spirituelle, mais aussi beaucoup plus froide, se revêtit d'une chaude enveloppe astrale. l'homme futur, avait revêtu sur la Lune une enveloppe astrale, et c'est grâce à elle que l'homme est devenu capable de développer sur Terre l'amour dans sa vie intérieure, depuis sa forme la plus basse jusqu'à la plus sublime. Le néophyte indien percevait clairement dans le Devarana supérieur l'archétype, la forme de l'homme. Dans le Devarana inférieur, elle s'enveloppait d'un voile astral qui contenait en germe les forces de l'amour. L'amour, l'éros des Grecs, il l'appelait Kama. Kama a ainsi eu sa place dans l'évolution de la Terre. Le verbe divin, Brahman, se vêtait en Kama, et c'est à travers Kama que le néophyte entendait résonner le verbe primordial. Le vêtement de l'amour était Kama, le vêtement du verbe originel, la vac, qui est à l'origine du mot latin vox, qui signifie voix. Le néophyte ressentait ainsi tout au fond de lui-même que le verbe divin avait revêtu le vêtement astral de l'amour, et il se disait « L'élément le plus élevé de l'homme, qui se compose aujourd'hui du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du jeu, c'est le jeu. C'est ce jeu qui est descendu dans le vêtement de l'amour pour former ainsi Kama Manas. C'est le noyau le plus intime de l'être humain. Kama, le jeu, le vêtement du Manas. De ce germe central doivent aussi naître trois corps supérieurs. Ceux-ci transformeront les corps inférieurs. Ils transformeront aussi le corps physique. Et de même que l'enveloppe astrale deviendra manas, de même que prana correspond à un niveau supérieur à ce que l'on nomme bouddhi, de même le corps physique, quand il sera entièrement spiritualisé, deviendra-t-il atma. Tout cela se trouvait déjà en germe dans la vac, et il y a dans les Védas une phrase qui rappelle encore comment le néophyte exprimait le mystère du noyau intime de l'être. Nous savons que le corps physique est né sur l'ancien Saturne, le corps éthérique sur l'ancien Soleil, le corps astral sur l'ancienne Lune, et le jeu sur la Terre. Mais la toute première forme humaine, celle qu'exprimait le mot primordial vac, contenait déjà en germe les trois autres corps. Il manque encore trois principes supérieurs à l'homme pour qu'il devienne l'image parfaite du verbe créateur, du verbe primordial. Le néophyte admettait que seul l'initié pouvait comprendre clairement la nature véritable du corps physique, du corps éthérique et du corps astral. Aujourd'hui, l'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il exprime son « je suis » et lorsqu'il évoque ce qui lui est entièrement propre. Ces autres corps existent aussi, mais là, l'homme est encore inconscient. Dans le quatrième, c'est la vac qui se manifeste. Dans le quatrième, l'homme parle. C'est là une phrase des Védas. Lorsque résonne la parole du « je », c'est la quatrième partie de la vac qui se fait entendre. Voici la phrase en question. Quatre quarts de la vac sont fixés. Trois demeurent cachés et immobiles. Les hommes ne prononcent que le quatrième quart. C'est une merveilleuse description de ce dont nous avons parlé si souvent. C'est ce que voyait le regard spirituel du néophyte. Il se trouvait reporté à cet état de l'évolution où les planètes étaient encore unies dans la Terre originelle, où résonnait pleinement la vac. C'est ce qu'exprime une autre phrase des Védas. Auparavant, je ne savais pas que j'étais le je suis. Mais lorsqu'arriva vers moi le premier-né de la terre, l'esprit s'emplit de lumière, et je participais à la vac sacrée, à la sagesse. Ces mots rendent une vision que percevait l'initié. Ceci n'est qu'une faible indication de ce que vivaient intérieurement les disciples des anciens rishis, des enseignements merveilleux qui pénétraient l'antique culture indienne, qui furent transmis aux époques suivantes et transformés suivant les besoins des autres peuples. Mais tous avaient compris le verbe originel vak. En évoquant tout entier un de ces mystères, nous comprendrons beaucoup mieux bien des choses. Il faut se représenter qu'autrefois, l'action qu'exerçait le maître sur l'élève était toute différente de ce qui se passe aujourd'hui. De nos jours, une action de ce genre ne peut s'exercer que lorsque le disciple a atteint un certain degré d'initiation. Autrefois, les influences qui passaient du maître à l'élève étaient beaucoup plus fortes. Essayons de nous faire une idée de ce qu'était cette influence. La parole, la pensée écrite du maître agissait sur l'âme d'entendement, mais en outre, des forces magiques, mystérieuses, passaient du maître à l'élève, et c'était elle qui avait le pouvoir d'emplir de clarté et de force de vie les tableaux qui surgissaient devant l'âme de l'élève. Cette faculté étrange ne se perdit qu'au cours de la quatrième époque post-atlantéenne, la civilisation gréco-latine. Ces forces, en effet, se métamorphosent. Dans l'ancienne Égypte, les rapports de maître à élève étaient tout autres qu'aujourd'hui. Les vieillards exerçaient sur la jeunesse une tout autre influence. Il faut savoir cela pour comprendre les écrits des auteurs grecs. Socrate était réellement doué de forces télépathiques qu'il exerçait sur les élèves pendant qu'il leur donnait son enseignement. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Nous trouvons dans les œuvres de Platon la trace de ces faits. Ce qui était bon et juste autrefois serait aujourd'hui une pratique condamnable. Sans cesse s'accomplissent des transformations. Nous ne devons surtout pas répéter cette situation aujourd'hui. Certaines pratiques actuelles se réclament de ces faits, mais elles sont aujourd'hui blâmables. Des forces passaient donc jadis du maître à l'élève. Dans l'ancienne Égypte encore, on rencontre un grand nombre d'individus qui étaient réceptifs à ce genre d'influence. Lorsqu'un de ces êtres, à l'âme particulièrement malléable, se trouvait avec un homme qui savait penser avec force, ses pensées énergiques agissaient de telle sorte qu'elles réapparaissaient dans l'âme du disciple sous forme d'image. Dans l'ancienne Égypte, cette action télépathique était tout à fait possible, et on l'y observe fréquemment. Cette transmission se produisait surtout entre les êtres énergiques et ceux dont la volonté n'était pas développée. On pouvait, par la pensée, diriger, conduire les autres, d'une manière dont nous ne ferions aucune idée aujourd'hui. À notre époque, si on se servait de ces forces, ce serait pour en faire un très mauvais emploi. Dans l'ancienne Égypte, les initiations étaient, dans l'ensemble, basées sur l'emploi de ce genre de forces. De même, dans l'Inde ancienne et en Perse. Ces forces venaient renforcer les effets de la méthode d'initiation, méthode que l'on pourrait appeler, en employant une expression exotérique, une méthode médicale. Naturellement, il ne s'agit pas de la médecine officielle d'aujourd'hui. L'initié égyptien, qui était aussi un médecin, aurait souri de ce que l'homme appelle aujourd'hui la médecine. L'ancien médecin égyptien savait une chose. Deux points. Il était encore possible de susciter ces états présents à l'origine dans l'Atlantide et perceptibles lors de l'initiation. Sur l'Atlantide, l'homme vivait dans un état de clairvoyance assourdi. L'initié égyptien savait qu'en ce temps, les êtres spirituels exerçaient sur l'homme un pouvoir beaucoup plus grand. Aujourd'hui, quand l'homme dort, il ignore tout des mondes supérieurs. Mais l'Atlante, doué d'une conscience clairvoyante embrumée, vivait encore avec les dieux. Et de même qu'aujourd'hui, l'exemple d'un être humain idéal vers lequel on s'élève agit beaucoup mieux que toutes les doctrines de morale, autrefois l'initié égyptien agissait sur son élève au moyen de forces et d'images tirées de réalités spirituelles supérieures. Son action n'était pas superficielle, elle pénétrait l'âme profondément et y produisait un résultat tout à fait particulier. Supposons un homme malade, chez lequel certaines fonctions ne s'accomplissent pas normalement. D'où cela vient-il? Celui qui connaît les enseignements occultes sait que les irrégularités des fonctionnements physiques n'ont pas de cause extérieure. Toute maladie qui n'a pas été provoquée par un accident extérieur a pour cause un trouble du corps éthérique. Mais si le corps éthérique est malade, c'est que le corps astral n'est pas dans son état normal. Lorsque l'Atlante sentait un risque de dysfonctionnement des humeurs, l'ordre était rapidement rétabli. Pendant son sommeil, l'homme recevait des mondes spirituels un tel afflux de force que les fonctions et les énergies atteintes se rétablissaient et l'homme guérissait. L'état de sommeil rétablissait les forces saines. Les anciens médecins égyptiens procédaient de façon analogue. Ils affaiblissaient artificiellement la conscience du patient jusqu'à une sorte de sommeil hypnotique. Et alors, ils pouvaient manier à leur gré les images qui surgissaient devant son âme. Ils les dirigeaient de telle sorte qu'elles pouvaient émettre des forces agissant sur le corps physique pour le guérir. Tel était le sens du sommeil dans le temple, auquel on recourait pour les maladies internes. On ne faisait prendre aux malades aucun remède, on le faisait dormir dans le temple. On atténuait sa conscience et on lui faisait contempler les mondes spirituels. On dirigeait alors ses expériences astrales de telle sorte qu'elles lui fournissent les forces qui redonnaient à son corps la santé. Ceci n'est pas une superstition, c'est un mystère qui était connu des initiés. Ils introduisaient dans les visions du malade des forces spirituelles. C'est pour cela que la médecine était étroitement liée au principe de l'initiation. Pour guérir, on rétablissait artificiellement les conditions dans lesquelles avait vécu l'homme atlantéen. Et comme l'homme endormi n'opposait pas à leur action sa conscience de veille, les forces nécessaires à la guérison pouvaient opérer sans obstacle. C'est dans ce sens qu'agissait le sommeil dans le temple. Pendant la civilisation égyptienne, régnait encore le principe qui avait agi en Inde avec les saints Rishis, disciples de Manu, le grand maître de la première civilisation. Ils dirigeaient eux-mêmes toutes les choses et transmettaient à leurs élèves les forces des planètes. Pendant la première civilisation post-atlantéenne, ce furent les Rishis qui apportèrent ce sublime enseignement, par lequel les hommes étaient conduits vers les mondes spirituels, jusqu'au Devaran supérieur. Ce qu'ils y contemplèrent alors descendit jusqu'au plan physique au cours des civilisations suivantes. Lors de la quatrième période post-atlantéenne, l'entité dont nous avons parlé à propos de l'Inde antique sous le nom de Brahman, et que nous nommons le Christ, pénétra dans le plan physique. Il n'avait plus à simplement transmettre l'esprit, mais il devint lui-même homme pour faire rayonner sur tous les hommes la mystérieuse puissance du Verbe originel. Ainsi, le Verbe est descendu pour faire retrouver à l'homme un chemin vers les hauteurs. Il faut que l'homme comprenne de quelle manière ce fait s'est accompli, et qu'il fasse de lui l'instrument d'une action qui fécondera l'avenir. Nous devons savoir ce qui a été avant nous afin de pouvoir donner une forme toujours plus spirituelle à ce qui est autour de nous, pour nous. Nous devons créer pour l'avenir un monde spirituel. Pour cela, il faut d'abord que nous comprenions le cosmos.